Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Gilles Ravoux.
Bonjour Monsieur Dos.
Bienvenue, maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis. Vous avez publié Économie, on n'a pas tout essayé au seuil. Philippe Trénard, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes, partenaire de cette émission chaque jeudi. Je reviens vers vous dans un instant. Bonjour Stéphane Van Uffel.
Bonjour Nicolas.
Co-fondateur de netinvestissement.fr. Un petit mot sur ce qui nous attend au mois de juillet. On va se retrouver avec BFM Business pour les traditionnelles rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Comment vous voyez cette session, Philippe?
Je crois qu'elle est importante avec un titre Lier les mondes qui peut paraître très optimiste au fond quand on regarde les nouvelles qui tombent tous les jours.
Lier les mondes.
Lier les mondes, oui. Relier les mondes. Mais en revanche, je crois que c'est important de conserver cette idée justement au moment où s'accumulent les mauvaises nouvelles géostratégiques, etc. La question de relier les mondes et comment on les relie devient de plus en plus d'actualité. Et je crois que ce sera un peu le thème de ces journées, c'est de dire, il faut aussi viser à laisser aux jeunes, à permettre aux jeunes de gérer ces mondes futurs et de leur donner moyen dès aujourd'hui de les gérer demain. Et on a fait une grande consultation auprès de 60 000 jeunes dont nous partagerons non point les conclusions, mais tout au moins les orientations et les recommandations, parce que je crois qu'au point où nous en sommes, on peut faire des orientations, on n'a pas de mesures précises en quelque sorte à proposer.
Justement, cette consultation auprès des jeunes, vous en aurez le commentaire des résultats le 11 avril ici même.
Voilà, absolument.
Sera là. Je crois que ça va être publié aux alentours du 7 ou 8 avril.
Absolument. Voilà. Nous allons avoir ça tous à début avril.
Voilà. Comment les jeunes d'aujourd'hui voient le monde de demain.
Et j'encourage vos auditeurs à regarder, parce que je crois qu'on aura pas mal de sources de réflexion, des idées vraies, des idées aussi parfois un petit peu fausses qu'il faudra corriger. Et je pense que ça fait partie du débat pour l'économie de demain.
Si nous allons à 12 mois d'indemnisation chômage pour les moins de 53 ans, cela voudra dire qu'au terme des réformes engagées ces derniers mois, nous aurons divisé par deux la durée d'indemnisation. S'il faut avoir travaillé 12 mois pour pouvoir accéder à l'assurance chômage, cela veut dire qu'au terme des réformes récentes, nous aurons multiplié par 4, par 3, pardon, par 3, le temps pendant lequel on aura travaillé pour accéder à l'assurance chômage. Normalement, sur les indemnités et leur dégressivité, le Premier ministre n'a pas l'air allant pour changer quoi que ce soit. C'est exactement le modèle allemand qui a un... Gilles Ravoux, le modèle allemand en France, 20 ans après.
Très bonne punchline. Excusez-moi, j'étais concentré parce que je veux dire des chiffres et pas trop me croûter. Donc j'essaie de les réviser.
Moi, essayez d'éviter de vous croûter.
J'essaie. Et donc je suis allé sur le très bon site gouvernemental qui s'appelle Où vont mes impôts ou un truc comme ça.
Oui, c'est le truc que.
Voilà, et donc je veux dire à Gabriel, l'excellent Gabriel Attal, que vraiment il a raison de se focaliser sur les dépenses d'assurance chômage, puisque, comme nous l'indique ce site du gouvernement, sur 1000 euros d'argent public, donc toutes les dépenses publiques et social, c'est-à-dire salaire des fonctionnaires, protection sociale.
Mais sur 1000 euros, où va l'argent?
1000 euros, où va l'argent public? Donc, retraite, 260.
C'est ça, oui, ça, je savais.
Santé, 200. Donc, on est déjà quasiment à la moitié. Mmh. Famille, 40. Chômage, 30. Voilà. Donc, c'était une blague pour dire que, d'un point de vue comptable... si on veut faire des économies, il y a des petites lignes, vous voyez, avant l'assurance chômage, et notamment il y a cette première ligne, mes chers retraités que j'aime beaucoup, qui sont de toute évidence, et tout le monde le dit, qui devraient être les premiers à contribuer. Ils ont un niveau de vie moyen qui est supérieur à celui de la population active. Bon, j'adore les vieux, merci les vieilles, merci papa, merci maman, tout ce que vous avez fait c'est génial et tout. Mais je veux dire, l'ordre de grandeur est déliant. C'est-à-dire que vous voyez, c'est quasiment du x10, du x10. Donc c'est grotesque, pour utiliser un terme technique d'économiste, de s'attaquer à l'assurance chômage pour des raisons budgétaires. Par contre, pour des raisons électorales, bon, là, effectivement, on comprend.
C'est pour le taux d'emploi, dans l'esprit du Premier ministre, même si aujourd'hui, c'est bien effectivement un but budgétaire qui est recherché.
Il se trouve, ça me remonte au cerveau d'un coup, qu'il y a quelques années, il y a eu une étude exhaustive incroyable sur les lois Hartz qui a été faite par trois économistes très forts dont j'ai oublié les noms.
Alors je rappelle, les lois Hartz, c'est tout le paquet de quatre lois qui est engagé par le chancelier de gauche Schröder au début des années 2000 après la réunification de l'Allemagne. Et c'est ce qui va lancer l'Allemagne dans une politique de l'offre ultra-mercantile.
C'est ça. Alors c'est une très belle histoire hein, puisque Hartz était le nom du chef du personnel de Volkswagen.
Peter Hartz.
Et Gerhard Schröder, qui effectivement était social-démocrate, a fini sa carrière chez Poutine. Donc c'est une très belle histoire à tout point de vue. Mais vraiment, hein, puisqu'il a quand même été au conseil d'administration de Gazprom.
Oui.
Non, mais voilà. Et donc, mais pour être sérieux, tout en sérieux, vous le savez. Et donc, ces économistes avaient fait une étude très, très fouillée que j'avais lue à l'époque. J'en avais fait un résumé sur le site d'Alternative Économique. Et qu'est-ce qu'ils montraient? C'est super intéressant. Ils montraient quel est le but des lois, le vrai but économique. C'est d'accroître la concurrence sur le marché du travail. Et ils montrent effectivement que ça a marché. C'est-à-dire qu'ils ont tellement baissé les droits des chômeurs en Allemagne, que la concurrence, notamment sur le bas du marché du travail, s'est fortement accrue en Allemagne. Et quel a été le résultat? Une baisse des salaires. C'est-à-dire que, oui, les gens les moins qualifiés en Allemagne ont eu des baisses de salaires réels parce qu'effectivement, tous les chômeurs se battaient pour avoir ces boulots-là. Génial. Deuxième résultat de l'étude, et là, évidemment,
mais
ça fait mal.
Pas des lois tendres, les lois Hartz, c'est des lois dures.
C'était des lois dures.
Bah,
des lois dures, évidemment.
Personne ne le nie, hein.
C'est... Deuxième résultat, Monsieur Dawes.
C'est pas tapis rouge, on est d'accord.
Chute de l'emploi. Donc pour répondre à votre truc de hausse du taux d'emploi, eh oui, résultat très étonnant qui a beaucoup circulé chez les économistes à l'époque, chute de l'emploi. Et là aussi, pourquoi? Parce que vous développez des mauvais emplois peu productifs et donc ça n'est pas vrai que accroître la concurrence sur le marché du travail sur le bas, ça augmente le taux d'emploi. Ça n'est pas vrai.
Bon, Philippe Trénard, alors je rappelle juste un chiffre. La DARES a considéré que si on baissait de 20% la durée d'indemnisation, ce qui globalement sera largement le cas, ça fait 3 milliards d'économies. C'est pas le Pérou, mais enfin. Comment vous lisez le...
Je crois que effectivement c'est pas une question d'abord d'économie. Pour moi, c'est d'abord une question d'emploi.
Oui, mais justement.
Parce que contrairement à ce que dit mon ami, ce n'est pas du tout... La réforme Hartz, c'est une réforme complexe, alors que in fine, elle a eu un effet négatif sur l'emploi.
Il y en avait une qui était à peu près similaire à celle-là. C'était la Hartz 4.
Mais il y a beaucoup d'autres...
La Hartz 4.
Il y a beaucoup d'autres dimensions de la réforme Hartz. Il n'y a pas que la réforme du chômage. La réforme du chômage, d'abord, tournons-nous vers la France. Nous avons baissé la durée d'indemnisation du chômage. Le chômage a chuté en même temps. Nous sommes à 7,5% en France de chômage aujourd'hui. Deuxièmement,
le taux est en train de remonter.
Oui.
On était tombé à 7,1.
Non, nous sommes passés de 7,6, n'est-ce pas, à 7,5. Le dernier résultat, c'est quand même, on continue. Et 7,5, c'est un niveau bas historique. Un niveau bas historique pour la France. Deuxièmement, je voudrais insister sur le fait que les économistes de l'OCDE, les économistes internationaux qui ont fait des comparaisons internationales, montrent que les sont inversement proportionnels à la durée d'indemnisation du chômage. Mmh. C'est-à-dire que les personnes ont tendance à aller assez systématiquement jusqu'à la fin de la durée d'indemnisation du chômage, ce qui réduit à la fois l'emploi, mais aussi leurs revenus. Parce qu'au chômage, on gagne quand même moins qu'en activité, même si les revenus éventuellement des non-qualifiés ont peut-être baissé en Allemagne, ils gagnent quand même beaucoup plus qu'en étant au chômage. Donc c'est une réforme d'emploi et de pouvoir d'achat.
Pour vous,
c'est une bonne voie.
Pour vous, le fait de réduire la durée d'indemnisation, c'est une incitation au retour à l'emploi.
Absolument. Bon, c'est une forte incitation au retour à l'emploi.
Je sais que Stéphane Carcillo, qui est un vrai spécialiste du sujet, dit c'est à peu près le seul paramètre pour lequel on a systématiquement vu l'effet que vous décrivez. Après, ça dépend à quel moment...
C'est le plus sûr.
Alors, oui, ça dépend à quel moment...
C'est toujours à quel moment on
l'engage aussi.
Oui, mais ça dépend comment
il peut y avoir après ça différents facteurs, et c'est de la probabilité. Nous ne sommes pas sur des mesures déterministes avec des certitudes à 100%, mais il n'y en a jamais en économie.
C'est très difficile d'avoir d'ores et déjà un recul sur la précédente réforme qui avait passé la durée d'indemnisation de 24 à 18 mois, parce qu'elle est trop fraîche pour avoir vraiment...
Quand même, elle n'a pas eu d'effet négatif, et deuxièmement, nous étions quand même le pays avec le plus, la durée la plus longue d'indemnisation.
Stéphane Vanhoenfels qui passe en troisième.
J'ai eu le temps de prendre mon petit café, tout va bien, impeccable.
Vous avez pris des notes.
Non, j'ai pas pris de notes.
Vous allez faire une synthèse.
Je vais rester, moi, toujours planté sur mes convictions depuis toujours. La première chose, je partage pas, pardon Gilles, ce point de vue de rapprocher sécurité sociale, santé, etc. en termes de budgétisation. Ce sont des assurances et c'est pas les mêmes. Et une erreur, mais c'est fondamentalement ça nous séparera toujours dans le positionnement de l'État. C'est que moi, j'ai des bulletins de salaire pour mes équipes. Bon, il y a une assurance, c'est le chômage, c'est une ligne qui paye. Il y a une assurance chez ceci, c'est une ligne qui paye. Et l'idée de on va remonter toutes les sources de prélèvements sociaux ou autres pour l'État, et l'État ensuite redécide là où il y a besoin de faire plus d'économies ou pas, est une erreur fondamentale qui a été prouvée depuis 1917 par l'Union soviétique, qui a ce système-là. Donc, c'est un détail peut-être pour les gens qui nous écoutent.
J'ai pas trop suivi votre idée, attendez Stéphane.
Gilles,
il y a une ligne chômage.
Gilles dit ça ne représente que 30 sur 100.
Ah, oui, d'accord.
Sur 1000, pardon, sur 1000. Alors on se dit, oui, peut-être que c'est pas là qu'il faut faire des économies. Peu importe, là on a un système qui est bien à part, avec une assurance bien à part. Les cotisations vont bien normalement pour ça. C'est-à-dire chaque Français, chaque citoyen, normalement, met de l'argent dans un système par répartition et il espère, il croit encore, je vais le dire comme ça, qu'il va avoir. Vous voyez, et bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le détail avec Gilles sur le fait que moi, je préférais qu'on lui laisse et qu'il le mette dans un système privé, où là, pour le coup, on n'irait pas piocher pour budgétiser sur d'autres trous, etc., etc. Mais c'est la première chose. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui me gêne un peu sur le travail, et vous le savez, pourtant, je suis le Texan de service et le libéral Texan de service.
À chaque fois, vous me dites que vous êtes
le
libéral de service.
Parce qu'en fait, ça surprend les gens. Ça surprend les gens. Pour moi, sur la notion de travail, qui est un fondement de besoin de productivité de notre pays, on ne devrait pas faire d'économie sur France Travail. On devrait réduire la durée, on devrait peut-être faire de la dégressivité sur les revenus, on devrait faire toutes ces choses-là, parce que c'est un message fondamental de société. C'est le message de dire, donc, les gars, en ce moment, il faut se remettre au boulot.
Donc il ne faut pas faire ce que propose...
Il faut le faire, mais pas parce qu'en fait on a Moody's ou Standard & Poor's qui nous dit allez récupérer 10 milliards là. Oui. Moi j'aimerais que ces 10 milliards là. Je l'ai
d'accord.
dit depuis 10 ans, Nicolas,
vous voyez venir.
Les 10 milliards, ils restent chez France Travail. Et ils forment les gens à accompagner les gens qui perdent du boulot. Mais non, mais c'est ça, parce qu'en fait le problème, c'est si vous leur dites vous avez plus 2 ans devant vous, mais que 1 an, mais qu'ils savent toujours pas faire de CV, ils savent toujours pas se présenter, ils arrivent avec des casquettes, ils ont pas les moyens de transport pour. C'est foutu. Et c'est le libéral qui vous dit ça. Sauf que les 10 milliards d'économie, on les redonne pas à France Travail. On les donne à des systèmes concurrents, c'est là où je vais être d'accord, juste pour voir de l'aide, de l'accompagnement. Le travail, on ne peut pas se dire on tranche sur le travail, comme on ne peut pas se dire on tranche sur l'hôpital. Non, il faut juste se dire si on doit faire des économies à certains endroits, là, à ce moment-là, c'est des vases communicants, mais des vases communicants internes au budget de l'emploi. Ça ne doit pas partir pour la Sécu ou pour d'autres choses. C'est fondamental, fondamental. C'est
avec cette idée qu'il doit rester, il ne s'agit pas de faire d'abord des économies, mais de remettre à l'emploi.
C'est presque devenu un besoin primaire, comme se loger, se nourrir, se soigner. Travailler est devenu un besoin primaire dans la société consumériste qu'on a. Donc il faut absolument que les gens puissent travailler en bonne santé et dans des bonnes conditions.
J'ai bien compris. Alors après, on pourra avoir un autre débat. J'y avais même pas pensé ce matin, de se dire, si on contracte considérablement l'ensemble des droits de l'indemnisation chômage, est-ce qu'on va contracter d'autant les cotisations? Probablement pas. Les cotisations vont rester au même niveau.
Je suis même pas venu sur ce
terrain. Les droits que ces cotisations ouvrent vont être considérablement abaissés. Bon, bref, moi je vous parie qu'on va faire du Hartz IV en 2024.
Oui, mais il faut faire attention à ça, Nicolas, ce que je rappelle quand même que les lois Hartz, c'était quand même Allemagne de l'Ouest qui absorbait un moribond, l'Allemagne de l'Est. On est, Dieu doit louer, pas dans cette situation quand même. Donc c'était des lois qui étaient forcément, pardon Gilles, très brutales, extrêmement brutales, parce qu'il fallait faire travailler une main-d'œuvre de l'Allemagne de l'Est qui était au niveau de la main-d'œuvre de la Pologne, des Pays-Baltes.
On a le même problème en France. Il y a insuffisamment de travail en France. C'est l'un des problèmes majeurs de la France en comparaison internationale. Il faut remettre la France au travail.
Qu'est-ce que vous voulez dire, Gilles Ravot veut la parole.
Je voudrais dire trois choses très rapidement.
Allez-y.
Première
Après,
chose...
on fait un peu d'impôt avant la pause.
Je suis toujours partant pour un peu d'impôt, ça vous le savez. Première chose, c'est excellent, c'est hyper drôle. J'ai fait un article sur le site de Charlie Hebdo. Quand a été créé ce site du gouvernement?
Bien dans le micro, hein, Gilles, parce que sinon,
pour dire exactement ce que vous avez dit, parce qu'effectivement, c'est une rupture intellectuelle majeure, ce site gouvernemental. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'on additionne les comptes de l'État et les comptes de la Sécurité sociale.
Ce qui est lunaire.
Et je suis un grand théoricien de l'État social. C'est assez drôle de voir Bruno Le Maire nous parler d'État-providence. Je rappelle que l'État-providence, c'est une expression qui vient d'un député qui s'appelait Émile Olivier au XIXe siècle, qui critiquait les assurances sociales en disant « Vous allez créer un État-providence ». Ce terme n'est plus utilisé par les chercheurs depuis à peu près 40 ans. Bon. Je fais petit détail. Il est toujours utilisé par Bruno Le Maire, qui voilà. Bon, passons.
Il est souvent utilisé encore aujourd'hui par plein de gens.
Pas
dans les articles
même
académiques.
Je veux dire, quand on est ministre de l'économie, on a quand même le droit. Bon, passons.
Même pas.
C'est pour dire que ce qui a été dit sur la dimension assurancielle de la protection sociale.
Si vous m'emmenez sur ce terrain, ça me passionne.
Mais c'est fondamental.
Oui, c'est fondamental.
C'est aussi une question démocratique. Voilà. C'est aussi une question démocratique, vous l'avez très bien dit. C'est une question de droit. Je rappelle que les caisses d'assurance sociale, quand c'était créé en France en 45, il y a une majorité de salariés pour les gérer. C'est tout de suite changé par le général de Gaulle qui crée le paritarisme égalité employeur-salarié. Donc, c'est très important et aussi les travaux justement montrent que c'est à chaque fois que la protection sociale est étatisée, elle se réduit parce qu'il y a tout le discours sur les baisses d'impôts et que donc les droits sociaux baissent. Donc en fait, cette question, c'est une question institutionnelle, politique absolument majeure et donc effectivement, j'avais fait un article justement sur le site de Charlie pour dire que mettre ensemble le budget de l'État et de la Sécu comme le fait le gouvernement, ça pose un problème intellectuel. La deuxième chose que je voudrais rappeler,
mais là, c'est une présentation qui les met ensemble. On a toujours une loi de finances.
Oui, voilà, c'est ça.
Budgétaire et une loi de finances de la Sécu.
Tout à fait.
Budget de la Sécu. Oui, ce qu'on dit, alors puis, bien que les gens n'oublient pas que c'est
les assurances maladie, c'est pas, comme c'est quoi pas que l'assurance chômage.
Oui. Ruisseler des gains d'un côté vers l'autre.
Il n'y a pas de vaste communiquant en théorie entre la TVA et
heureusement, parce que sinon,
l'assurance maladie n'est pas l'assurance chômage. Il y a quand même des effets de redistribution dans l'assurance chômage qu'il n'y a pas dans l'assurance maladie. Redistribution.
Il y a tout un débat. Mais Philippe, il y a tout un débat pour savoir.
Pas les mélanger, jamais.
Mais il y a tout un débat pour savoir ce qui doit rester du domaine de l'assurance, est-ce qu'il y a du domaine de la solidarité, est-ce qu'il doit rester payé par des cotisations dans un bon modèle bismarckien, est-ce qu'il doit maintenant être payé par de l'impôt dans un bon modèle beveridgien. Et ce sujet est un sujet important. Et derrière, on va revenir sur notre débat. On y a passé 35 minutes hier, aux grandes dames de Guillaume Dard, pour essayer d'arbitrer entre la TVA et la CSG sociale. Bon, on ne va pas recommencer aujourd'hui, parce que...
Alors, je voudrais juste revenir sur...
Alors, allez-y.
Je voudrais juste revenir sur le cas de l'Allemagne. Ce que vous avez dit sur l'absorption de l'Allemagne de l'Est, c'est très juste. Je voudrais aussi rappeler un peu d'économie politique du modèle allemand. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que l'Allemagne, comme on sait, le modèle de croissance allemand est tiré par les exportations.
Oui.
Et vous avez un cœur professionnel de gens qui sont très qualifiés, très bien payés, très productifs, mais dans la mondialisation, on a un problème de coût du travail. Qu'est-ce que font les Allemands qui est très intelligent? C'est un pur modèle insider-outsider, c'est-à-dire que la majorité sociologique, politique des gens qualifiés va voter pour une dérégulation du bas du marché du travail qui ne la concerne pas, elle. Les ouvriers de l'automobile allemand continuent à être très bien payés. Par contre, cette dérégulation va permettre une baisse indirecte très forte du coût des entreprises parce qu'elle va toucher les services, le ménage, tout ce que vous voulez, etc. Et quand on regarde le coût du travail en Allemagne aujourd'hui, il est, depuis plusieurs années, plus élevé dans l'industrie que dans l'industrie française. Par contre, il y a une très forte chute du coût des services en Allemagne du fait de la forte baisse des emplois justement non qualifiés permise, c'est absolument théorisé à l'époque de façon parfaite, par cette forte baisse de l'assurance chômage. Donc ça marche. Ça a marché pour l'Allemagne, ça a préservé une classe moyenne qualifiée. Qu'est-ce que ça a fait? Ça fait exploser le taux de pauvreté en Allemagne.
Le taux de pauvreté est plus élevé en Allemagne.
Voilà. Méfions-nous des comparaisons avec les Allemands. Ils sont un peuple très différent.
La notion de taux de pauvreté en Allemagne.
Non, mais je conclue.
Alors, il faut que on a 45 secondes. Ouais.
Non, mais quand même, c'est qu'aujourd'hui, on a une explosion de l'extrême droite en Allemagne qui est liée à cette hausse de la pauvreté. Alors, on peut faire.
Là, je ne suis pas d'accord. C'est un taux de pauvreté relatif. Donc, ce n'est pas tout à fait pertinent.
Exactement comme chez nous, c'est les chiffres. Non, mais attendez, c'est très facile de faire les petits malins.
On marque une.
On va baisser les allocations chômage, etc. Et après, on vient pleurer sur des élections. Ah, c'est bizarre.
Et le taux de chômage en Allemagne n'a jamais été aussi bas en Allemagne. Ce qui est quand même un acquis.
La pauvreté.
On marque une pause. Si vous voulez réagir sur la pauvreté en Allemagne, bon, pourquoi pas. Je voudrais quand même qu'on dise un mot des impôts, parce que Gabriel Attal a une position sur les impôts. Pas de hausse d'impôts. Excepté sur quelques profits un peu exceptionnels ci et là, ce qu'on fait déjà d'ailleurs. Et puis il n'est pas du tout sur l'idée qu'il faut ressusciter une taxe sur les riches. Objectivement, quand on a un problème à 153 milliards, est-ce qu'il faut faire une taxe qui rapportera les 3 ou 4? Ça ne règle pas trop le sujet. Allez, on marque une pause. On se retrouve dans un instant, je regarde vos réactions.